Denis Diderot, supplément au voyage de Bougainville, ou dialogue entre A et B sur l'inconvénient d'attacher des idées morales à certaines actions physiques qui n'en comportent pas. Chapitre 1er, jugement du voyage de Bougainville. A. Cette superbe voûte étoilée sous laquelle nous revînmes hier et qui semblait nous garantir un beau jour ne nous a pas tenu parole. B. Qu'en savez-vous? Oh, le brouillard est si épais et qui nous dérobe la vue des arbres voisins. Il est vrai, mais si ce brouillard, qui ne reste dans la partie inférieure de l'atmosphère que parce qu'elle est suffisamment chargée d'humidité, retombe sur la terre. Oui, mais si, au contraire, il traverse l'éponge, s'élève et gagne la région supérieure, où l'air est moins dense et peut, comme disent les chimistes, n'être pas saturé. Faut attendre. En attendant, que faites-vous? Je lis. Ah, toujours ce voyage de Bougainville. Toujours. Je n'entends rien, cet homme-là. L'étude des mathématiques, qui suppose une vie sédentaire, a rempli le temps de ses jeunes années, et voilà qu'il passe subitement d'une condition méditative et retirée au métier actif, pénible, errant et dissipé de voyageur. Et nullement. Si le vaisseau n'est qu'une maison flottante, et si vous considérez le navigateur qui traverse des espaces immenses, resserré immobile dans une enceinte assez étroite, vous le verrez faisant le tour du globe sur une planche, comme vous et moi, le tour de l'univers sur votre parquet. Oh, une autre bizarrerie apparente, c'est la contradiction du caractère de l'homme et de son entreprise. Bougainville a le goût des amusements de la société. Il aime les femmes, les spectacles, les repas délicats. Il se prête au tourbillon du monde, d'aussi bonne grâce qu'aux inconstances de l'élément sur lequel il a été ballotté. Il est aimable et gai, c'est un véritable Français, lesté d'un bord d'un traité de calcul différentiel et intégral, et de l'autre, d'un voyage autour du globe. Il fait comme tout le monde, il se dissipe après s'être appliqué, et s'applique après s'être dissipé. Que pensez-vous de son voyage ? Autant que j'en puis juger, sur une lecture assez superficielle, je rapporterai l'avantage à trois points principaux. Une meilleure connaissance de notre vieux domicile et de ses habitants, plus de sûreté sur des mers qu'il a parcourues la sonde à la main, et plus de correction dans nos cartes géographiques. Bougainville est parti avec les lumières nécessaires et les qualités propres à ses vues. De la philosophie, du courage, de la véracité, un coup d'œil prompt qui saisit les choses et abrège le temps des observations, de la circonspection, de la patience, le désir de voir, de s'éclairer, de s'instruire, la science du calcul des mécaniques, de la géométrie, de l'astronomie et une teinture suffisante d'histoire naturelle. Et chose-t-il ? Au sens après, le ton de la chose, de la simplicité, de la clarté, surtout quand on possède de la langue des marins. Sa course a été longue. Je l'ai tracée sur ce globe. Voyez-vous cette ligne de points rouges ? Ah, qui part de Nantes. Oui, et court jusqu'au détroit de Magellan, entre dans la mer Pacifique, serpente entre ces îles, formant l'archipel immense qui s'étend des Philippines à la Nouvelle-Hollande, rase Madagascar, le Cap de Bonne-Espérance, se prolonge dans l'Atlantique, suit les côtes d'Afrique et rejoint l'une de ses extrémités à celle d'où le navigateur s'est embarqué. Il a beaucoup souffert. Oh, tout navigateur s'expose et consent de s'exposer au péril de l'air, du feu, de la terre et de l'eau. Mais qu'après avoir erré des mois entiers entre la mer et le ciel, entre la mort et la vie, après avoir été battu des tempêtes, menacé de périr par naufrage, par maladie, par disette d'eau et de pain, un infortuné vienne, son bâtiment fracassé, tombé, expirant de fatigue et de misère, au pied d'un monstre d'airain qui lui refuse ou lui fait attendre impitoyablement les secours les plus urgents, c'est une dureté. Un crime digne de châtiment. Une de ces calamités sur laquelle le voyageur n'a pas compté. Et n'a pas dû compter. Je croyais que les puissances européennes n'envoyaient pour commander dans leur possession d'outre-mer que des âmes honnêtes, des âmes bienfaisantes, des sujets remplis d'humanité et capables de compatir. C'est bien cela ce qui les soucie. Il y a des choses singulières dans ce voyage de Bougainville, beaucoup. N'assure-t-il pas que les animaux sauvages s'approchent de l'homme et que les oiseaux viennent se poser sur lui lorsqu'ils ignorent le danger de cette familiarité? D'autres l'avaient dit avant lui. Mais comment explique-t-il le séjour de certains animaux dans des îles séparées de tout continent par des intervalles de mer effrayantes? Qu'est-ce qui a porté là le loup, le renard, le chien, le cerf, le serpent? Il n'explique rien, il atteste le fait. Et vous, comment l'expliquez-vous? Qui sait, l'histoire primitive de notre globe? Combien d'espaces, de terres maintenant isolées étaient autrefois continues? Le seul phénomène sur lequel on pourrait former quelques conjectures, c'est la direction de la masse des eaux qui les a séparées. Comment cela? Par la forme générale des arrachements. Quelques jours, nous nous amuserons de cette recherche, si cela vous convient. Pour ce moment, voyez-vous cette île qu'on appelle des lanciers? À l'inspection du lieu qu'elle occupe sur le globe, il n'est personne qui ne se demande qu'est-ce qui a placé là des hommes. Quelle communication les liait autrefois avec le reste de leur espèce? Que deviennent-ils en se multipliant sur un espace qui n'a pas plus d'une lieue de diamètre? Ils s'exterminent et se mangent, et de là peut-être une première époque très ancienne et très naturelle de l'anthropophagie insulaire d'origine. Où la multiplication y est limitée par quelques lois superstitieuses, l'enfant y est écrasé dans le sein de sa mère, foulé sous les pieds d'une prêtresse. Où l'homme égorgé expire sous le couteau d'un prêtre, où l'on a recours à la castration des mâles, à l'infibulation des femelles, et de là tant d'usages d'une cruauté nécessaire et bizarre, dont la cause s'est perdue dans la nuit des temps et met les philosophes à la torture. Une observation assez constante, c'est que les institutions surnaturelles et divines se fortifient et s'éternisent en se transformant à la longue en lois civiles et nationales, et que les institutions civiles et nationales se consacrent et dégénèrent en préceptes surnaturels et divins. Bon, c'est une des palingénésies les plus funestes. Un bras de plus qu'on ajoute au lien dont on nous sert. Mais n'était-il pas au Paraguay au moment même de l'expulsion des jésuites? Oui. Qu'en dit-il? Moins qu'il n'en pourrait dire, mais assez pour nous apprendre que ces cruels spartiates en jaquette noire en usaient avec leurs esclaves indiens, comme les lacédémoniens avec les ilotes. Ils avaient condamné à un travail assidu, ils s'abreuvaient de leur sueur, ne leur avaient laissé aucun droit de propriété, les tenaient sous l'abrutissement de la superstition, en exigeait une vénération profonde, marchait au milieu d'eux un fouet à la main et en frappait indistinctement tout âge et tout sexe. Un siècle de plus et leur expulsion devenait impossible, ou le motif d'une longue guerre entre ces moines et le souverain dont ils avaient peu à peu secoué l'autorité. Et ces patagons dont le docteur Mathy et l'académicien Lacondamine ont fait tant de bruit? Bon, ce sont de bonnes gens qui viennent à vous et qui vous embrassent en criant Chaoua. Fort, vigoureux, toutefois n'excédant guère la hauteur de 5 pieds 5 à 6 pouces, n'ayant d'énormes que leur corpulence, la grosseur de leur tête et l'épaisseur de leurs membres. Né avec le goût du merveilleux qui exagère tout autour de lui, mais comment l'homme laisserait-il une juste proportion aux objets lorsqu'il a, pour ainsi dire, à justifier le chemin qu'il a fait et la peine qu'il s'est donnée pour les aller voir au loin? Et du sauvage, qu'en pense-t-il? C'est, à ce qu'il paraît, de la défense journalière contre les bêtes qu'il tient le caractère cruel qu'on lui remarque quelquefois. Il est innocent et doux, partout où rien ne trouble son repos et sa sécurité. Toute guerre naît d'une prétention commune à la même propriété. L'homme civilisé a une prétention commune avec l'homme civilisé à la possession d'un champ dont ils occupent les deux extrémités, et ce champ devient un sujet de dispute entre eux. Et le tigre a une prétention commune avec l'homme sauvage à la possession d'une forêt. Et c'est la première des prétentions et la cause de la plus ancienne des guerres. Avez-vous vu le Tahitien que Bougainville avait pris sur son bord et transporté dans ce pays-ci? Je l'ai vu, il s'appelait Aotourou. À la première terre qu'il aperçut, il l'a pris pour la patrie des voyageurs, soit qu'on lui en eût imposé sur la longueur du voyage, soit que, trompé naturellement par le peu de distance apparente des bords de la mer qu'il habitait à l'endroit où le ciel semble confiner à l'horizon, il ignora la véritable étendue de la terre. L'usage commun des femmes était si bien établi dans son esprit, il se jeta sur la première européenne qui vint à sa rencontre et qui se disposait très sérieusement à lui faire la politesse de Tahiti. Il s'ennuyait parmi nous. L'alphabet tahitien n'ayant ni B, ni C, ni D, ni F, ni G, ni Q, ni X, ni Y, ni Z, il ne put jamais apprendre à parler notre langue, qui offrait à ses organes inflexibles trop d'articulations étrangères et de sons nouveaux. Il ne cessait de soupirer après son pays, et je n'en suis pas étonné. Le voyage de Bougainville est le seul qui m'ait donné du goût pour une autre contrée que la mienne. Jusqu'à cette lecture, j'avais pensé qu'on n'était nulle part aussi bien que chez soi. Résultat que je croyais le même pour chaque habitant de la terre. Effet naturel de l'attrait du sol, attrait qui tient aux commodités dont on jouit et qu'on n'a même pas la certitude de retrouver ailleurs. Quoi, vous ne trouvez pas l'habitant de Paris aussi convaincu qu'il croise des épis dans la campagne de Rome que dans les champs de la Beauce? Ma foi, non. Bougainville a renvoyé à Autourou après avoir pourvu aux frais à la sûreté de son retour. Oh, Aotourou, que tu seras content de revoir ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tes maîtresses, tes compatriotes. Que leur diras-tu de nous? Oh, peu de choses et qu'ils ne croiront pas. Pourquoi peu de choses? Parce qu'il en a peu conçu et qu'il ne trouvera dans sa langue aucun terme correspondant à celle dont il a quelques idées. Et pourquoi ne le croiront-ils pas? Parce qu'en comparant leurs mœurs aux nôtres, ils aimeront mieux prendre à Autourou pour un menteur que de nous croire si fous. En vérité, je n'en doute pas. La vie sauvage est si simple, et nos sociétés sont des machines si compliquées. Le Tahitien touche à l'origine du monde, et l'Européen touche à sa vieillesse. L'intervalle qui le sépare de nous est plus grand que la distance de l'enfant qui naît à l'homme décrépit. Il n'entend rien à nos usages, à nos lois, où il n'y voit que les entraves déguisées sous 100 formes diverses, entraves qui ne peuvent qu'exciter l'indignation et le mépris d'un être en qui le sentiment de la liberté est le plus profond des sentiments. Est-ce que vous donneriez dans la fable de Tahiti ? Non, ce n'est point une fable. Et vous n'auriez aucun doute sur la sincérité de Bougainville si vous connaissiez le supplément de son voyage. Et où trouve-t-on ce supplément ? Là, sur cette table. Est-ce que vous ne le confierez pas ? Non, mais nous pouvons le parcourir ensemble, si vous voulez. Assurément, je le veux. Voilà le brouillard qui retombe et l'azur du ciel qui commence à paraître. Il semble que bon lot soit d'avoir tort avec vous jusque dans les moindres choses. Il faut que je sois bien bon pour vous pardonner une supériorité aussi continue. Et tenez, tenez, lisez. Passez ce préambule qui ne signifie rien et allez droit aux adieux. Que Fleet est chef de l'île à nos voyageurs. Cela vous donnera quelques notions de l'éloquence de ces gens-là. Comment Bougainville a-t-il compris ces adieux prononcés dans une langue qu'il ignorait? Vous le saurez. C'est un vieillard qui parle. Chapitre 2. Les adieux du vieillard. Il était père d'une famille nombreuse. À l'arrivée des Européens, il laissa tomber des regards de dédain sur eux, sans marquer ni étonnement, ni frayeur, ni curiosité. Ils l'abordèrent, il leur tourna le dos, se retira dans sa cabane. Son silence et son souci ne décelaient que trop sa pensée. Il gémissait en lui-même sur les beaux jours de son pays éclipsé. Au départ de Bougainville, lorsque les habitants accouraient en foule sur le rivage, s'attachaient à ses vêtements, serraient ses camarades entre leurs bras et pleuraient, ce vieillard s'avança d'un air sévère et dit « Pleurez, malheureux Tahitien, pleurez, mais que ce soit de l'arrivée et non du départ de ces hommes ambitieux et méchants, un jour vous les connaîtrez mieux. » Un jour ils reviendront, le morceau de bois que vous avez attaché à la ceinture de celui-ci dans une main et le fer qui pend aux côtés de celui-là dans l'autre. Vous enchaînez, vous égorgez, vous assujettir à leurs extravagances et à leurs vices. Un jour vous servirez sous eux, aussi corrompus, aussi vils, aussi malheureux qu'eux. Mais je me console, je touche à la fin de ma carrière. Et la calamité que je vous annonce, je ne la verrai point, Tahitien, mes amis. Vous auriez un moyen d'échapper à un funeste avenir. Mais j'aimerais mieux mourir que de vous en donner le conseil. Qu'il s'éloigne et qu'il vive. Puis s'adressant à Bougainville, il ajouta « Et toi, chef des brigands qui t'obéissent, écarte promptement ton vaisseau de notre rive. » Nous sommes innocents, nous sommes heureux, et tu ne peux que nuire à notre bonheur. Nous suivons le pur instinct de la nature, et tu as tenté d'effacer de nos âmes son caractère. Ici, tout est à tous, et tu nous as prêché je ne sais quelle distinction du tien et du mien. Nos filles et nos femmes nous sont communes. Tu as partagé ce privilège avec nous, et tu es venu allumer en elles des fureurs inconnues. Elles sont devenues folles dans tes bras, tu es devenu féroce entre les leurs. Elles ont commencé à se haïr, vous vous êtes égorgés pour elles, et elles nous sont revenues, teintes de votre sang. Nous sommes libres, et voilà que tu as enfoui dans notre terre le titre de notre futur esclavage. Tu n'as ni un dieu ni un démon. Qui es-tu donc pour faire des esclaves? Horu, toi qui entends la langue de ces hommes-là, dis-nous à tous, comme tu me l'as dit à moi, ce qu'ils ont écrit sur cette lame de métal, ce pays est à nous. Ce pays est à toi, et pourquoi? Parce que tu as mis le pied? Si un Tahitien débarquait un jour sur vos côtes et qu'il grava sur une de vos pierres ou sur l'écorce d'un de vos arbres, ce pays appartient aux habitants de Tahiti, qu'en penserais-tu? Ah, tu es le plus fort, et qu'est-ce que cela fait? Lorsqu'on t'a enlevé une des méprisables bagatelles dont ton bâtiment est rempli, tu t'es récrié, tu t'es vengé, et dans le même instant, tu as projeté au fond de ton cœur le vol de toute une contrée. Tu n'es pas esclave. Tu souffrirais la mort plutôt que de l'être, et tu veux nous asservir. Tu crois donc que le Tahitien ne sait pas défendre sa liberté et mourir? Celui dont tu veux t'emparer comme de la brute, le Tahitien est ton frère. Vous êtes deux enfants de la nature. Quel droit as-tu sur lui qui n'est pas sur toi? Tu es venu, nous sommes-nous jetés sur ta personne, avons-nous pillé ton vaisseau, avons-nous saisi et exposé aux flèches de nos ennemis, t'avons-nous associé dans nos champs au travail de nos animaux, nous avons respecté notre image en toi, alors laisse-nous nos mœurs, elles sont plus sages et plus honnêtes que les tiennes. Nous ne voulons point troquer ce que tu appelles notre ignorance contre tes inutiles lumières. Tout ce qui nous est nécessaire et bon, nous le possédons. Sommes-nous dignes de mépris parce que nous n'avons pas su nous faire des besoins superflus? Lorsque nous avons faim, nous avons de quoi manger. Lorsque nous avons froid, nous avons de quoi nous vêtir. Tu es entré dans nos cabanes. Qui manque-t-il à ton avis? Poursuis jusqu'où tu voudras ce que tu appelles commodité de la vie, mais permets à des êtres sensés de s'arrêter lorsqu'ils n'auraient à obtenir de la continuité de leurs pénibles efforts que des biens imaginaires. Si tu nous persuades de franchir l'étroite limite du besoin, mais quand finirons-nous de travailler? Quand jouirons-nous? Nous avons rendu la somme de nos fatigues annuelles et journalières. La moindre qu'il était possible, parce que rien ne nous paraît préférable au repos. Va dans ta contrée, t'agiter, te tourmenter tant que tu voudras, mais laisse-nous reposer. Ne nous entête ni de tes besoins factices, ni de tes vertus chimériques. Regarde ces hommes, vois comme ils sont droits, sains et robustes. Regarde ces femmes, vois comme elles sont droites, saines, fraîches et belles. Prends cet arc, c'est le mien. Appelle à ton aide un, deux, trois, quatre de tes camarades et tâchez de le tendre. Je le tends moi seul. Je laboure la terre. Je grimpe la montagne. Je perce la forêt. Je parcours une lieue de la plaine en moins d'une heure. Tes jeunes compagnons ont-tu peine à me suivre, et j'ai 90 ans passés. Malheur à cette île, malheur aux Tahitiens présents et à tous les Tahitiens à venir du jour où tu nous as visités. Nous ne connaissions aucune maladie, celle à laquelle l'homme, l'animal et la plante ont été condamnés, la vieillesse, et tu nous en as apporté une autre. Tu as infecté notre sang. Il nous faudra peut-être exterminer de nos propres mains nos filles, nos femmes, nos enfants, ceux qui ont approché tes femmes, celles qui ont approché tes hommes. Nos champs seront trempés du sang impur qui a passé de tes veines dans les nôtres, ou nos enfants, condamnés à mourir et à perpétuer le mal que tu as donné aux pères et aux mères et qu'ils transmettront à jamais à leurs descendants. Malheureux, mais tu seras coupable, ou des ravages qui suivront les funestes caresses des tiens, ou des meurtres que nous commettrons pour en arrêter le poison. Tu parles de crime, mais as-tu l'idée d'un plus grand crime que le tien? Quel est chez toi le châtiment de celui qui tue son voisin? La mort par le fer. Quel est chez toi le châtiment du lâche qui l'empoisonne? La mort par le feu. Compare ton forfait à ce dernier, et dis-nous, empoisonneur de nations, le supplice que tu mérites. Bien qu'un moment, la jeune Tahitienne s'abandonnait au transport, aux embrassements du jeune Tahitien, attendait avec impatience que sa mère, autorisée par l'âge nubile, releva son voile et mit sa gorge à nu. Elle était fière d'exciter les désirs et d'arrêter les regards amoureux de l'inconnu, de ses parents, de son frère. Elle acceptait sans frayeur et sans honte, en notre présence, au milieu d'un cercle d'innocents Tahitiens, au son des flûtes, entre les danses, les caresses de celui que son jeune cœur et la voix secrète de ses sens lui désignaient. L'idée de crime et de péril de la maladie sont entrées avec toi parmi nous. Nos jouissances, autrefois si douces, sont accompagnées de remords et d'effroi. Cet homme noir qui est près de toi, qui m'écoute, a parlé à nos garçons. Je ne sais pas ce qu'il a dit à nos filles. Mais nos garçons hésitent, mais nos filles rougissent. Enfonce-toi, si tu veux, dans la forêt obscure, avec la compagne perverse de tes plaisirs. Mais accorde au bon et simple Tahitien de se reproduire sans honte, à la face du ciel et au grand jour. Quel sentiment plus honnête et plus grand pourrais-tu mettre à la place de celui que nous leur avons inspiré et qui les anime? Ils pensent que le moment d'enrichir la nation et la famille d'un nouveau citoyen est venu et ils s'en glorifient. Ils mangent pour vivre et pour croître. Ils croissent pour multiplier et ils n'y trouvent ni vice ni honte. Écoute la suite de tes forfaits. À peine t'es-tu montré parmi nous, qui sont devenus voleurs. À peine es-tu descendu dans notre terre, qu'elle a fumé de sang. Ce Tahitien qui courut à ta rencontre, qui t'accueillit, qui te reçut en criant « Taïo, ami, ami !» Vous l'avez tué. Et pourquoi l'avez-vous tué? Parce qu'il avait été séduit par l'éclat de tes petits yeux de serpent. Il te donnait ses fruits, il t'offrait sa femme et sa fille. Il te cédait sa cabane. Et tu l'as tué pour une poignée de ses grains qu'il avait pris sans te le demander. Et ce peuple, au bruit de ton arme meurtrière, la terreur s'est emparée de lui et il s'est enfui dans la montagne. Mais crois-tu qu'il n'aurait pas tardé d'en descendre? Crois qu'en un instant, sans moi, nous périssions tous. Et pourquoi les ai-je apaisés? Pourquoi les ai-je contenus? Pourquoi les contiens-je encore dans ce moment? Je l'ignore. Car tu ne mérites aucun sentiment de pitié, car tu as une âme féroce qui ne l'éprouva jamais. Tu t'es promené, toi et les tiens, dans notre île. Tu as été respecté, tu as joui de tout. Tu n'as trouvé sur ton chemin ni barrière ni refus. On t'invitait, tu t'asseyais. On étalait devant toi l'abondance du pays. As-tu voulu des jeunes filles? Excepté celles qui n'ont pas encore le privilège de montrer leur visage et leur gorge, les mères t'ont présenté les autres toutes nues. Te voilà possesseur de la tendre victime du devoir hospitalier. On a jonché pour elle et pour toi la terre de feuilles et de fleurs. Les musiciens ont accordé leurs instruments. Rien n'a troublé la douceur ni gêné la liberté de tes caresses ni des siennes. On a chanté l'hymne qui t'exhortait à être homme, qui exhortait notre enfant à être femme et femme complaisante et voluptueuse. On a dansé autour de votre couche, et c'est au sortir des bras de cette femme, après avoir éprouvé sur son sein la plus douce ivresse, que tu as tué son frère, son ami, son père peut-être. Tu as fait pis encore. Regarde de ce côté. Vois cette enceinte hérissée de flèches, ces armes qui n'avaient menacé que nos ennemis. Vois-les tourner contre nos propres enfants. Vois les malheureuses compagnes de nos plaisirs. Vois leur tristesse. Vois la douleur de leur père. Vois le désespoir de leur mère. C'est là qu'elles sont condamnées à périr par nos mains ou par le mal que tu leur as donné. Éloigne-toi, à moins que tes yeux cruels ne se plaisent à des spectacles de mort. Éloigne-toi. Va et puisse les mères coupables qui t'ont épargné dans ton voyage s'absoudre et nous venger en t'engloutissant avant ton retour. Et vous, Tahitiens, rentrez dans vos cabanes, rentrez tous, et que ces indignes étrangers n'entendent à leur départ que le flot qui mugit et ne voient que l'écume dont sa fureur blanchit une rive déserte. À peine eut-il achevé que la foule des habitants disparut. Un vaste silence régna dans toute l'étendue de l'île, et l'on entendit que le sifflement aigu des vents et le bruit sourd des eaux sur toute la longueur de la côte. On eût dit que l'air et la mer, sensibles à la voix du vieillard, se disposaient à lui obéir. Eh bien, qu'en pensez-vous? Ah, ce discours me paraît véhément, mais à travers je ne sais quoi d'abrupt et de sauvage, il me semble y retrouver des idées et des tournures européennes. B. Pensez donc que c'est une traduction du tahitien en espagnol et de l'espagnol en français. Le vieillard s'était rendu la nuit chez cet Horou qui l'a interpellé, et dans la case duquel l'usage de la langue espagnole s'était conservé de temps immémorial. Horou avait écrit en espagnol la harangue du vieillard, et Bougainville en avait une copie à la main, tandis que le tahitien la prononçait. Oh, je ne vois que trop à présent pourquoi Bougainville a supprimé ce fragment. Mais ce n'est pas là tout. Et ma curiosité pour le reste n'est pas légère. Bon, ce qui suit peut-être vous intéressera moins. N'importe. C'est un entretien de l'aumônier de l'équipage avec un habitant de l'île. Horou. Oui, lui-même. Lorsque le vaisseau de Bougainville approcha de Tahiti, un nombre infini d'arbres creusés furent lancés sur les eaux. En un instant, son bâtiment en fut environné. De quelque côté qu'il tournât ses regards, il voyait les démonstrations de surprise et de bienveillance. On lui jetait les provisions, on lui tendait les bras, on s'attachait à des cordes, on gravissait contre des planches, on avait rempli sa chaloupe, on criait vers le rivage, d'où les cris étaient répondus, les habitants de l'île accouraient, les voilà tous à terre, on s'empare des hommes de l'équipage, on se les partage, chacun conduit le sien dans sa cabane. Les hommes les tenaient embrassés par le milieu du corps, les femmes leur flattaient les joues de leurs mains. Placez-vous là, soyez témoins par la pensée de ce spectacle d'hospitalité. Et dites-moi comment vous trouvez l'espèce humaine. Ah, très belle. Ah, mais j'oublierai peut-être de vous parler d'un événement assez singulier. Cette scène de bienveillance et d'humanité fut troublé tout à coup par les cris d'un homme qui appelait à son secours. C'était le domestique d'un des officiers de Bougainville. De jeunes Tahitiens s'étaient jetés sur lui, l'avaient étendu par terre, le déshabillaient et se disposaient à lui faire la civilité. Quoi? Ces peuples si simples, ces sauvages si bons, si honnêtes? Vous vous trompez, ce domestique était une femme déguisée en homme. Ignorée de l'équipage entier pendant tout le temps d'une longue traversée, les Tahitiens devinèrent son sexe au premier coup d'œil. Elle était née en Bourgogne, elle s'appelait Barré, ni laide ni jolie, âgée de 26 ans. Elle n'était jamais sortie de son hameau, et sa première pensée de voyager fut de faire le tour du globe, elle montra toujours de la sagesse et du courage. Ces frêles machines-là enferment quelquefois des âmes bien fortes,